Alors c'est intéressant parce que moi aussi je vais parler de Jésus. Ça tombe bien, dimanche matin. Toute religion ou toute philosophie ont leur doctrine. Et c'est d'elle qu'est déduit une morale. La morale, c'est comme un fruit. Le fruit ne peut pas être meilleur que l'arbre lui-même. La morale évangélique diffère de tous les autres fruits, non seulement par son excellence, mais surtout de par l'arbre dont elle est originaire, la foi en Jésus-Christ. C'est à partir du chapitre 3 de l'épître de Paul aux Colossiens que commence la partie pratique, dans laquelle Paul développe le règne de Jésus dans la vie du croyant, montrant qu'il est la solution aux problèmes de tous les jours. En résumé, celui qui croit en Jésus est sanctifié par sa foi. Sa foi est une vie. Notre foi a un impact sur tous les aspects de notre vie. Ce matin, c'est de la vie que je souhaite vous parler. De notre vie vue sous trois angles différents. La vie spirituelle, la vie charnelle et enfin la vie éternelle. Mais avant tout, j'aimerais commencer par vous parler d'un jeu auquel nous avons sans doute tous participé durant notre enfance. Cache-cache. Ce jeu est d'autant plus intéressant qu'il illustre bien la prédication qui va suivre. Quel est le principe de ce jeu ? L'un reste les yeux fermés dans un coin et énonce à voix haute un compte à rebours, tandis que l'autre court pour se trouver une cachette. Le compte à rebours fini, celui qui compte cherche celui qui se cache. Il sait qu'il est présent, mais il ne le voit pas encore. Il lui faudra de la patience, de la persévérance, de l'imagination pour le trouver. Et si, finalement, il n'y arrive pas, celui qui se cache soit sort de sa cachette, soit s'endort. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3 et je lirai donc du verset 1 à 10. Je lirai dans la Taube, Colossiens chapitre 3. Du verset 1 à 10, qui dit ceci. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui, en vous, appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, mauvais désir et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté sortie de vos lèvres. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques. Et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. La vie spirituelle. Vous êtes mort en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Cette vie-ci concerne ce qui ne peut être vu, ce qui n'est pas palpable. Cette vie permet à l'âme de se libérer de la condamnation du péché qui mène à la mort. Dans ce passage de la Bible, l'apôtre suppose que les chrétiens auxquels il s'adresse sont morts avec le Christ, morts au monde, morts au péché et morts à eux-mêmes. Dès lors, il peut supposer aussi qu'ils sont ressuscités avec le Christ, car ces deux aspects de l'œuvre terrestre de Jésus vont de pair et sont indissociables. À l'instant même où quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur, il s'approprie son œuvre de rédemption et participe spirituellement à sa mort, mais aussi à sa résurrection, ce qui fait de lui un être régénéré, apte à mener une vie entièrement renouvelée. Ainsi, Christ est notre vie. Non seulement parce qu'il nous a rachetés de la mort, mais parce qu'il vit en nous et que nous vivons en lui grâce à sa résurrection. Sans résurrection du Christ, pas de vie pour l'humanité. La vie nouvelle du chrétien converti ne peut être vue par le monde parce qu'elle est encore cachée. Toutefois, le croyant est mort au monde et vit en Christ. Il arrive que nous ayons à nous cacher, non pas pour nous divertir, mais plutôt pour notre sécurité. Ça arrive. Durant mes années d'école primaire, on nous apprenait encore, je ne sais pas si c'est encore le cas, à se cacher sous nos tables en cas de tremblement de terre. Un enfant qui a peur de la tempête, peur du monstre dans le placard, peur du cauchemar, va se cacher sous sa couette ou sous son lit. Le principe de se cacher est synonyme de sécurité. C'est quand nous ne pouvons plus être vus par ce qui pourrait nous faire du mal que l'on se sent en sécurité. Frédéric Phoebe Bruce était un bibliste érudit et l'un des fondateurs de la modernité évangélique. Et il dit ceci. Puisque les chrétiens vivent en Christ et que le Christ est leur véritable vie, il est inévitable que leur vie soit préservée en sûreté, là où le Christ se trouve à présent. Imaginons maintenant que le Christ nous donne de notre vivant sur terre la vie qu'il cache en lui. Imaginons ce que nous en ferions. Notre vie actuelle est-elle prête pour recevoir cette vie-ci? Ou au contraire, n'est-ce pas parce que notre vie actuelle n'est pas encore ce qu'elle devrait être que nous devrons encore attendre cette vie à venir? Cette vie, dite cachée ou en sécurité, ne le serait-elle pas de nous? Le fait que notre vie soit cachée avec le Christ ne suggère pas seulement la sécurité de la vie du croyant, mais aussi qu'elle appartient pour le moment, dans un sens très réel et profond, au monde invisible et spirituel. Elle appartient pour le moment au monde invisible, car un jour, elle apparaîtra aux yeux de tous. Notre expérience actuelle du salut donné par le Christ n'est pas encore manifeste. Ce n'est pas encore une manifestation complète et visible. Mais viendra le temps où le secret de la nouvelle vie cachée se manifestera. Alors, nous pourrons jouir de cette vie dans l'union totale avec le Christ, notre vie. Alors, maintenant que nous avons vu ensemble la vie spirituelle pour le moment cachée dans le Christ, voyons ce qu'il en est de notre vie charnelle sur terre. La vie charnelle. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses pratiques. Et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Après conversion, notre vie ressemble à la greffe d'un arbre. Voilà un prunier sauvage, incapable de porter du fruit. On le décapite en ne laissant que le tronc et on greffe sur lui une branche d'amandier. Dès lors, le prunier n'existe plus et l'arbre est devenu un amandier qui produit de bonnes amandes. Mais on constate bien souvent qu'au ras de la terre, en dessous de la greffe, souvent sortent des bourgeons. Ceux-ci sont d'ailleurs dangereux. Ils étoufferaient rapidement l'amandier lui-même si on ne le coupait pas au fur et à mesure de leur apparition. Ainsi en est-il de notre nouvelle vie. Notre vieil homme, le tronc du prunier sauvage, est toujours bien vivant, quoique entièrement condamné par le sacrifice du Christ. Il se manifeste trop souvent par la tendance à commettre le péché. Nous devons donc couper ces bourgeons avec soin dès qu'ils se montrent pour ne pas risquer qu'ils portent atteinte à l'amandier. Plus nous attendons, plus ils prennent de l'importance et plus l'opération est difficile et douloureuse. Dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul énumère un certain nombre de péchés qui altèrent notre vie sur terre. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières et les mensonges. Prenons trois d'entre eux comme exemple. Paul qualifie la cupidité d'idolâtrie. D'autres traductions de la Bible nous parlent d'attachement au bien ou le désir de tout avoir. Ne nous est-il jamais arrivé d'avoir cet ardent désir de vouloir plus que tout telle ou telle voiture ? Maison, ordinateur, garde-robe, chaussures, Moi-même, j'ai eu une période MMORPG. Alors, c'est un jeu sur Internet, un jeu de rôle sur Internet, durant laquelle j'étais constamment dans le désir de posséder la dernière armure ou l'épée la plus puissante. Et bien souvent, je convoitais celle des autres joueurs. Il est facile de comprendre pourquoi l'attachement au bien peut vite devenir une idolâtrie. Et je dirais encore plus avec un jeu vidéo, parce que ça n'a rien de réel. Je regardais aux informations un reportage sur des passionnés de Johnny Hallyday. Assez intéressant, hein ? Certains allaient jusqu'à collectionner les mégots de cigarettes que Johnny avait fumés, devenus une relique pour eux. À ce stade critique de la possession, cette possession même est devenue un dieu et nous entraîne à l'idolâtrie. La colère est aussi un bourgeon à couper dès son apparition. Nous avons déjà vécu, malheureusement, dans l'Église, des situations où la colère était palpable entre nous. Et nous vivons parfois des situations où nous ne sommes pas d'accord avec les uns et les autres. Et cette divergence d'opinion nous entraîne trop souvent à la colère. Par exemple, Samuel nous propose Eric comme candidat pour devenir notre prochain pasteur. Certains sont favorables à cette idée, d'autres non. Il est déjà arrivé que cette situation nous ait entraînés dans la colère. C'est normal que dans une communauté aussi grande que la nôtre, il y ait beaucoup de points de vue différents. Il faut l'accepter. Il faut vivre avec, en harmonie, les uns avec les autres. Et savoir s'écouter. Alors, j'ai donné cet exemple-ci, je pourrais en donner d'autres. Et l'important, c'est de couper ce bourgeon quand il apparaît. Paul nous parle aussi des paroles grossières. Alors, pour quelqu'un comme moi qui vient du sud de la France, certains de ces mots sont plus des liaisons de phrases que des gros mots. Écoutez parler un sudiste, vous comprendrez. Encore que c'est pas tous, heureusement. Alors, durant ma première année à l'Institut biblique, j'en ai choqué plus d'un avec mes liaisons de phrases. J'ai donc compris qu'il me fallait changer. Et l'Esprit de Dieu, bien heureusement, m'a aidé. Ça a pris du temps. Mais j'ai arrêté de dire des gros mots, au moins à l'Institut. Et dans de rares occasions, ça m'arrive encore d'en dire, mais plus autant qu'avant. Nous vivons, pour le moment, une vie terrestre. Et il est tellement facile de se laisser entraîner vers le bas. Le but de ce passage biblique est de nous aider à mener une vie meilleure, basée sur une morale encore plus excellente, dans le but d'être renouvelé à l'image de notre Créateur. Quand bientôt nous regarderons les Jeux Olympiques de Londres, nous verrons des athlètes en compétition qui poussent au maximum leur capacité physique pour gagner une épreuve et recevoir une médaille, de préférence en or. C'est de cette manière que le croyant doit rechercher les valeurs d'en haut. Nous pourrons alors manifester des vertus chrétiennes comme l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais Cette manière de vivre ne s'apprend pas assis sur sa chaise le dimanche matin. Il faut savoir, quand le moment est venu, prendre son courage à deux mains pour aller discuter avec celui qui nous agace ou avec la personne avec qui je me suis mis en colère. Et nous avons tous, sans exception, des efforts à faire. Le but de notre vie terrestre est de la rendre aussi similaire que la vie éternelle, exempte de péché que nous a promis le Christ. Nous avons donc vu ensemble la vie spirituelle cachée dans le Christ, la vie charnelle, trop souvent altérée par le péché. Et voyons maintenant la vie éternelle, exempte de péché, dans la ressemblance au Christ. La vie éternelle. La vie éternelle est l'exemple ultime de la vie que nous devrions mener sur terre. Alors, nous restons lucides, car nous savons qu'il sera impossible d'arriver à une vie exempte de péché pour le moment. Toutefois, quitte à prendre un exemple sur quelqu'un, prenons exemple sur celui qui est le meilleur, le Christ. Une espérance nous anime tous, celle de la gloire qui nous est réservée pour le moment du retour de notre Sauveur. Quand le Christ, notre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui, en pleine gloire. Quand le Christ paraîtra, alors nous paraîtrons aussi. Tout au long de cette épître, Paul souligne de façon évidente les rapports étroits entre le croyant et le Christ, que maintenant il évoque à travers son retour. La puissance de résurrection et de vie par laquelle Christ s'est relevé d'entre les morts passe de lui dans ceux avec qui il est uni par la foi. Paul écrit aux Colossiens que le Christ est notre vie, qu'il est notre vie. Certes, Jésus donne la vie éternelle, c'est ce qu'il nous a promis. Mais c'est parce qu'il est lui-même la vie qu'il a le pouvoir de nous la donner. Avant d'être un état, la vie éternelle est une personne. Jésus-Christ, Fils du Père, notre Dieu. C'est seulement quand le Christ apparaîtra que les croyants apparaîtront avec lui. Au moment de l'enlèvement de l'Église, le Christ viendra personnellement dans les airs pour chercher les élus. Lors de cet événement grandiose, la véritable identité des croyants sera révélée aux yeux de tous. Dieu revêtira chacun d'eux d'un corps de gloire identique à celui du Christ, sans corruption du péché, et cela pour l'éternité. Cet enseignement est difficile pour nous. Qu'est-ce qu'un corps de gloire ? Quelle est la différence entre le corps que nous avons maintenant et le corps exempt de péché que nous aurons ? Pour le savoir, le mieux reste de se convertir. La vie que nous avons prépare la vie que nous aurons. la façon dont nous menons notre vie charnelle a un impact sur notre vie éternelle. Et je dirais qu'elle a un impact aussi sur notre vie spirituelle. Nous sommes encouragés par notre société à se constituer un bon compte en banque, bien rempli, afin de préparer une retraite confortable, la dernière étape de notre vie sur terre. C'est bien. Mais pour un croyant, ça n'a pas la même importance que pour un non-croyant. Pour un non-croyant, l'âge d'or est actuel. C'est la vie sur terre. Et il va tout faire pour que cette vie-là le satisfasse au mieux. Tandis que pour le croyant, cette vie sur terre n'est qu'une transition vers la véritable vie dans les cieux, où nous expérimenterons la vie telle que Dieu l'a toujours souhaitée, une vie sans péché. Voilà pourquoi, ici-bas, le croyant ne devrait pas gaspiller son énergie à chercher l'âge d'or sur terre, mais rechercher les réalités d'en haut et leur consacrer toute notre attention. Alors, nous ne parlerons pas ce matin de la longueur de cette vie éternelle exempte de péché. Cette notion nous donne le vertige pour nous qui n'arriverons pas à comprendre que cet état n'aura pas de fin. Essayez d'imaginer que la vie éternelle n'aura pas de fin. Pas facile. J'en viendrai donc à la conclusion. Paul a dirigé l'attention des Colossiens et de tous les croyants dans deux directions. L'une par en haut, où le Christ est assis sur son trône, et l'autre par en avant, vers son retour. En gloire, lorsqu'il viendra nous chercher. C'est à cela que je nous encourage tous ce matin. De mener notre vie actuelle, les yeux fixés à la fois vers le Christ et vers l'avenir, en haut et en avant. En introduction, je vous ai parlé du jeu cache-cache. Ce qui est intéressant, c'est le principe d'être à la recherche, de persévérer, de ne pas se décourager et de savoir que si nous ne trouvons pas ce que nous recherchons, il sortira de sa cachette. Tout comme pour ce jeu, notre vie est cachée en Christ. Nous devons donc passer notre vie sur terre à la rechercher avec persévérance. C'est en Christ que subsiste notre vie. C'est donc en lui qu'il faut la chercher. Oui, c'est en Christ que subsiste notre vie. C'est donc en lui qu'il faut la chercher. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Amen.